Mehdi, déjà bonjour.
Ouais, bonjour Gilda, bonjour tout le monde.
Ouais, est-ce que c'est bien toi qu'on voit derrière en photo?
Oui, c'est moi. Il semblerait une époque lointaine.
Alors, t'avais quel âge sur cette photo?
Je sais pas précisément. Je situe ça fin des années 80 ou tout début des années 90. Voilà, c'est une photo de photomaton, il n'y a pas de date. Bon, bref, quoi.
Et t'étais dans quelle période à cette époque?
J'étais dans la période, soit j'étais encore au collège, soit je m'étais fait virer, je sais plus. Enfin, j'étais très jeune en tout cas. Pas plus de 15 ans, c'est sûr, même beaucoup moins, je pense.
Alors, comment tout a commencé? Comment t'es venu à la musique? Quelles sont les premières musiques que t'as écoutées? Qu'est-ce qui t'a inspiré?
Alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, bah, j'avais un grand frère et une grande sœur. Mon grand frère, lui, avait des vinyles de groupes hard rock type AC/DC, Kiss, voilà, qui avaient des visuels, les pochettes des visuels étaient assez parlants, et moi, ça me parlait, en fait. Ça m'attirait, ce côté un peu glauque, enfin, ouais, bizarre un peu pour un gamin, en tout cas. Mais j'aimais pas la musique. Mais en tout cas, tout de suite, ça m'a attiré. Et donc ça, mon frère écoutait du hard, ma sœur écoutait Renault. Et j'étais très vite fan de Renault à l'époque, hein, bien sûr. Les premiers albums, ils sont très bien d'ailleurs. Et donc, il y avait déjà le côté un peu hard rock du côté du frangin, le côté un peu engagé finalement du côté Renault. Enfin, en tout cas, le côté un peu transgressif, voilà. Et donc, je suis arrivé comme ça, et puis très vite, il y a aussi le, j'habitais rue des Hauts Pavés, donc pour les Nantais qui connaissent, il y avait un disquaire qui s'appelle Blue Record. Voilà, vous pouvez voir le flyer d'époque, voilà derrière. Et donc c'est quelqu'un, Jean-Claude Mouchet, qui tenait cette boutique. Il m'a vu débouler dans sa boutique, je sais pas, j'avais 8, 9 ou 10 ans. Je cherchais un 45 tours. D'un groupe de merde que j'avais vu au top 50 parce que j'avais pas encore toutes les connaissances et les bons goûts à l'époque. Donc, et il m'a dit bah non, on vend pas de ça, et puis voilà, ouais, voilà, c'est Jean-Claude là, assez récemment en fait, il y a quelques années, malheureusement à l'enterrement d'un ami, un vieux punk de Nantes aussi, Thierry Pinard, enfin à la crémation plutôt, on va dire. Bon, voilà. Et en fait, ce monsieur, Jean-Claude Mouchet, a beaucoup compté dans mon éducation musicale. Moi, j'étais, en fait, mes parents étaient séparés, ma maman travaillait beaucoup. En fait, j'étais un peu livré à moi-même à cette époque. Et donc, j'étais toujours dans sa boutique, et voilà, quoi. Là, ça enchaînait. Écoutait beaucoup de punk, de hardcore, et voilà. Et aussi, effectivement, donc, sur cette photo, vous pouvez voir, je suis en présence de mon oncle Éric Breton, qui était le batteur de Tequila, en fait. Donc voilà, en fait, j'ai très vite baigné dans la musique. Dans la famille, il y avait du...
C'était quel genre, Tequila?
Tequila, c'est du rock, blues, quoi. Rock, blues, voilà, quoi. Et c'est un groupe qui a visiblement beaucoup compté sur Nantes. Moi, j'étais un peu jeune à l'époque, hein. Je suis né en 75, donc forcément, le premier album de Tequila, ça doit être 79, il me semble. Enfin bref, le groupe s'est monté en 77, moi, à 2 ans, si tu veux. Hein. J'écoutais Chapi Chapeau, vite fait, et on me forçait à écouter ça, quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc là, on te voit, ça va être une partie importante de ta vie aussi, ouais. C'est la scène skate.
Exactement. En fait, mon grand frère m'avait acheté une planche de skate dans une boutique qui s'appelle Big Bazar. Là, s'il y a des vieux Nantais qui ont dû connaître ça, rue des Hauts Pavés, ça n'existe plus depuis des lustres. C'était un bazar, justement, comme son nom l'indique. Il m'avait acheté une petite planche de skate. Là, à l'époque, il n'y avait pas les grandes planches de skate encore par chez nous. Voilà, c'était les petites planches de slalom. Et on skatait, on faisait la descente du marché de Talensac. Hein, c'était un peu le spot à l'époque, voilà. Et sur cette photo, alors c'est pas les débuts du skate, parce que je skatais déjà avant avec mon grand frère et j'étais beaucoup plus jeune. Là, je sais pas, je dois avoir 13 ans, j'en sais rien en fait. Ça, c'est au skatepark de La Roche-sur-Yon, un vieux skatepark old school avec mes vieux potes de Nantes, enfin certains des vieux potes, hein, y a Jean-Eudes, Gaël, voilà. Et donc, ça c'est... D'ailleurs, c'est marrant parce que cette photo est prise sans doute par le père de Jean-Eudes, qui était le co-gérant de Blue Record, voilà.
C'est la famille.
Voilà.
Donc les mêmes lascars.
Ouais, avec d'autres. Bon, ça c'est bien vieux. C'est dans un monastère abandonné qu'on avait réussi enfin à escalader une mur, là, c'est vers la rue Noire, pour ceux qui connaissent. On voyait ça depuis tout gamin, et ça nous excitait, ce truc-là, abandonné, hyper grand, et on a réussi à aller là-dedans, voilà. Moi, j'ai un beau sweat rose. Alors, je sais pas de quand ça date, ça, mais c'est pareil. À l'ancienne, quoi. Enfant. Mais en fait, le truc, c'est que enfant, bah voilà, on était déjà dans ce délire-là, urbain, rock, punk, skate, voilà, c'était, si vous voulez, j'ai presque envie que c'est naturel, quoi. J'ai pas, je me suis pas dit, tiens, demain, je vais écouter du punk, quoi. Je sais même pas comment c'est venu, en fait, quoi. Ça a toujours été. Ça, c'est l'affiche des G-Turns, c'est mon tout premier groupe en 1989. Et j'étais guitariste à l'époque. Et je me souviens très bien avoir acheté ma guitare la veille de la première répète. Donc c'est pour, si ça peut vous donner une idée du niveau qu'on avait. On était des grands musiciens. Donc en fait, ouais, là c'est... En fait, c'est marrant parce qu'en fait, il y a aucune trace de ce groupe-là à part une cassette de répète de l'époque. On répétait le dimanche matin dans le garage d'un pote. Ça devait être, il devait être bien content, les parents et tout. Alors, d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Et puis voilà, moi en 2012, cette cassette-là, je l'ai sortie en 45 tours, comme ça pour le fun, à 25 exemplaires. Vraiment pour les potes de l'époque, c'était vraiment plus dans l'esprit de se remémorer les conneries de l'époque entre potes. Et voilà. Et donc ça, c'est la back cover du 45 tours que j'ai sorti sur mon label Arcadia Records. Et la photo s'est prise sur les marches de Gralin, de Place Gralin, où on traînait à l'époque beaucoup, puisqu'on faisait du skate à la médiathèque, c'était tout proche.
D'ailleurs, c'est dédicacé aux skateurs de la médiathèque.
Ouais, voilà, ouais. Muffy Blues, IHS et la Pyromane Brigade, c'était nos petites bandes à l'époque. Voilà.
Alors, voyage en Angleterre qui va ouvrir aussi des nouveaux horizons musicaux.
Ouais, tout à fait. Là, c'est une photo qui est prise à Leeds avec ma copine de l'époque, Virginie. Et ça, c'est en 1990, en fait. Et en fait, alors évidemment, j'écoutais déjà du punk et du hardcore hein, à cette époque-là. Mais en fait, à Nantes, à part Blue Record et quelques disquaires d'occasion, enfin, c'était assez compliqué. S'il y avait Nuggets, qui avait des trucs, des fois Fuzz aussi. Mais le hardcore, c'était complètement inconnu à l'époque. Donc, quand tu trouvais un disque, t'étais le roi du pétrole, quoi. En fait, ce qui tournait, c'était Suicidal Tendencies, des trucs, des gros trucs connus. Et donc, lors de ce voyage à Leeds en 1990, et ben j'ai vu un disquaire qui avait vraiment plein de disques de New York hardcore, et puis je me suis fait plaisir, quoi. Et c'est là-bas que j'ai acheté les premiers vinyles, enfin pas les. J'avais déjà des vinyles avant, bien sûr, mais plus typé vraiment New York hardcore, ce qu'on aimait, mais qui était dur à trouver à l'époque sur Nantes. Et donc j'ai acheté là-bas, je me rappelle très bien, des disques encore. Hein. J'ai acheté deux albums de Youssef Today, l'album de Judge, l'album de Gorilla Biscuits, un truc de trash anglais, la Cerebral Fix. Enfin bon, bref. Et donc ça a été un point de départ quelque part pour moi parce que j'avais surtout acheté les trucs de Youssef Today que je cherchais depuis longtemps, etc. Je me rappelle par exemple avoir creusé Eric qui est présent dans cette salle avec un t-shirt Youssef Today dans les années 80 et je me dis que c'est incroyable où il a eu ça et tout. C'est vraiment une autre époque, quoi. Il n'y a pas internet, il n'y a pas quand tu veux quelque chose. Tu cliques pas sur internet pour l'avoir, quoi. Tu vois un mec avec un t-shirt d'un groupe que t'aimes bien, c'est un événement. Enfin, ça l'était à l'époque, quoi. Voilà, aujourd'hui c'est hyper facile, tu le sais, les mecs, tu sais même pas si ça fait un an ou 30 ans qu'il est dans la scène, mais il a le même t-shirt que n'importe qui. Enfin, d'ailleurs, on s'en fout des t-shirts, mais c'est pour dire, quoi. C'était vraiment une autre approche, enfin une autre époque simplement, hein. C'est pas une... voilà.
Alors on le voit donc avec Olivier Hans, ouais. Qui va être aussi un acteur de la scène hardcore à Nantes.
Ouais, tout à fait.
Donc ce qui veut dire, c'est une histoire en fait de vieux potes aussi, tout ça finalement.
Exactement, exactement. Ça c'est une photo qui date aussi, hein. C'est 1990, à Cholet, au Cholet Skate Weekend, où on allait foutre le bordel. Les skateurs nantais, on n'était pas très appréciés parce qu'on était vraiment des branleurs. On foutait le feu à des banks, enfin des tremplins de skate, on dépouillait les tentes des mecs qui étaient en train de skater et nous on restait au camping à foutre la zone, quoi. Mais dans la bonne humeur, hein, bien sûr, mais enfin pour nous en tout cas, quoi. Voilà. Bon, ça encore une fois, c'est une autre époque aussi. Et donc ouais, donc ça c'est encore à Cholet. Pour revenir sur Olivier, en fait, le chanteur de Ride for Life de l'époque, c'est un ami à moi depuis de plus de 30 ans en fait. Et on a commencé à peu près en même temps à évoluer dans le skate, le punk, puis le hardcore. Voilà.
Une évolution naturelle.
Une évolution naturelle. Et là, c'est dans notre mobilhome, pardon, à un des Cholet Skate Weekend. on voyait un peu l'ambiance, voilà. Pff, on était des branleurs, on faisait les cons, c'était marrant, quoi. On a laissé le bungalow plein de merde partout. Enfin, c'était, on était tricard complet de là-bas, mais on est quand même retourné.
Alors là, ça commence. Qu'est-ce que c'est ? Quel groupe c'est ?
Bah là, c'est à la salle de muscu à Bellevue, hein, comme vous pouvez voir. Donc cette photo, c'est une répète de Slam Face. Je pense que c'est en 1994. Donc après les Jitters, mon groupe pourri d'époque, là où on savait pas jouer, c'était marrant en tout cas. On a fait un groupe qui donc depuis les Jitters, c'est-à-dire depuis 1989, moi je voulais faire un groupe de hardcore. Simplement à Nantes, il y avait pas grand monde, surtout de notre génération. Il y avait des plus anciens forcément, mais quant à si tu veux, moi en 89, j'avais 14 ans. Donc forcément les mecs qui ont 25 ans, ils ont déjà tu les connais pas, t'as vu des mecs des fois des concerts, comme je disais, tu vois, Eric avec un t-shirt Youssef Today, t'hallucinais, mais t'osais pas aller parler, t'étais un enfant, quoi. Voilà. Et donc enfin en 1993, on a réussi à monter notre groupe, et sur cette photo, en fait, c'est tous les potes, enfin c'est pas tous les potes. On était une bande de skateurs, vraiment. C'était un groupe voilà.
Et là du coup t'es passé à la batterie.
Exactement, à la batterie. En fait, la batterie, j'ai essayé assez vite, puisque donc mon oncle jouait dans Tequila. Bon, voilà quoi. Et je me suis mis à la batterie. J'ai un pote qui avait le batteur des Jitters m'avait filé sa batterie. Et moi, j'ai déménagé à la campagne en 93, je crois, ou 92, je sais plus. Et bref, et donc je pouvais jouer de la batterie, quoi, dans ma chambre.
Donc ça, c'est
une autre photo de Slam Face. C'est avant notre premier concert. Je me rappelle très bien de ce shoot l'américain, quoi. Ce shooting photo dans la rue, voilà. Et le premier concert, c'était celui-là pour Slam Face. Donc organisé par HPE. HPE, c'était une asso que faisait un pote, un ami même presque de l'époque, qui s'appelle Guillaume Bolzer, voilà, qui était plus dans la scène noise, lui. Et donc il nous avait programmé au Hardcore Festival à MJC de Doulon en 1995. Voilà, c'était en mars 95. C'était le premier concert de Slam Face, ouais. Et je tiens à dire quand même que, alors nous, quand on est arrivé avec Slam Face, c'est vrai qu'on était dans un délire vraiment New York Hardcore, chose qui n'existait pas à Nantes à l'époque. Enfin, il y avait des gens qui en écoutaient certainement, c'était clairsemé, mais il y avait beaucoup de groupes qui ont été importants aussi pour la scène hardcore nantaise, mais qui étaient plus dans un délire punk hardcore. Des groupes comme Bigelow Sisters, au début bien sûr, parce que bon, voilà. Il y a eu Bloody Musley aussi, qui était un groupe un peu plus fusion, mais qui a compté aussi, je pense, même si à l'époque, nous, on était des enfants. Et si vous voulez, on arrivait, comme on dit, le fils chasse le père un peu, enfin du veux tuer le père. Et c'est vrai que c'était pas trop notre délire, mais ça avait le mérite d'exister et d'avoir mis une première pierre à l'édifice au niveau du hardcore à Nantes. Mais c'est vrai que nous, on était vraiment les premiers à arriver avec un style New York hardcore plus américain, etc. Skate, voilà. Et après, il y a eu moi j'avais vu Dirty Fingers à la fête de la musique au Scrib. Je me rappelle très bien de ça. Il y avait Eric aussi qui était là avec le batteur, avec Yanos là, le batteur des Bloody. C'est un groupe qui a rien fait, je crois, hein, d'ailleurs. Je me rappelle qu'il y avait une compilation cassette, ils avaient un morceau dessus, mais j'ai jamais pu retrouver ça sur Discogs et tout, nulle part. Et donc c'est pour dire que la scène hardcore nantaise puis ses sources vraiment, je pense, au milieu des années 80, voilà. Et c'est au début des années 90, enfin vers 1992-93, que le New York hardcore, entre guillemets, s'est imposé à Nantes. Ça reste des milieux très underground, donc voilà.
Le bon vieux temps des cassettes qui reviennent à la mode, d'ailleurs, le retour du vintage.
Ouais, exact. C'est la démo de Slam Face, voilà. Cassette, vous pouvez voir. Ça, c'est la réédition que j'ai fait en vinyle. Skate en hardcore 95, c'était vraiment ce qui nous définissait à l'époque. C'était vraiment notre milieu, le skate et le hardcore. Voilà. Ça, c'est un vieux flyer de l'époque aussi qui est assez représentatif de notre état d'esprit. Skate, action, do it yourself. Moi, c'est moi qui avais organisé ce concert. Enfin, organisé, c'est un grand mot. On squattait dans des bars et on ramenait une sono, quoi.
Donc, voilà. Avec Slam Face et Ray for Life, les deux qu'on voyait en photo, là. Ouais.
Exact. Et Ride for Life avec F-O-R et pas le 4 encore, évidemment. Ça, c'est vraiment au début. Ouais. Bah le 45 tours Inhuman Slam Face, voilà, c'est qui est sorti plus tard. Ça c'est une photo d'un concert de hardcore au squat Le Courtois à Nantes.
On voit bien l'ambiance quand même.
Voilà, ouais c'était assez ouais c'était cool cette photo, je la trouve vraiment bien. En plus il y a que des potes ou des amis dessus, donc forcément voilà, j'aime. Alors ça c'est Aswan, c'est la c'est un groupe dans lequel je jouais, c'était un side project en fait avec les membres de Stormcore et moi de Slamface. Stormcore c'était un groupe de Rennes qui a été très important dans les années 90 dans la scène hardcore française. En fait il y avait deux trois groupes importants à l'époque en France, c'était important. C'était donc Stormcore, Kickback et il y avait aussi Shit Happens qui était pas loin derrière, mais enfin bon voilà. Et Stormcore, en fait, on s'est connus très vite avec les Coreux Nantais. On s'est rencontrés en 92 et après on s'est plus jamais quittés jusqu'en 98. D'où ce groupe Side Project. On faisait beaucoup de reprises. On a fait une démo, voilà. Ok.
Encore un flyer. Alors, là, c'est pour To Learn, en fait. Autre ouais. Groupe.
Ouais, alors ouais, ça c'est quand on a fait jouer Cro-Mags en 2000. Comment s'appelle au Floride, enfin au Saint-Domingue, ouais, c'était encore le Saint-Domingue à l'époque, ouais. Et donc voilà, c'est To Learn, c'est en fait To Learn, ça s'est monté en 99, je crois. En fait, c'était à la fin de Slamface, et dans Slamface, à la fin, j'étais plus que le seul membre d'origine. Il y a eu plein de line-up différents, hein, comme le disait Claire tout à l'heure, chaque groupe a un peu un parcours. C'est rare d'avoir un groupe qui reste 100% les mêmes du début à la fin. Voilà. Et donc, à la fin de Slamface, j'étais plus que le seul d'origine et le style avait considérablement évolué lui aussi. Donc, on a décidé de changer de nom, c'est passé à To Learn et To Learn, j'ai fait 4-5 concerts avec eux et ils m'ont viré comme une merde de ce groupe-là. Voilà. Je leur en tire pas rigueur d'ailleurs. Le batteur, c'est mon meilleur ami. Enfin, le chanteur, pardon, à l'époque, voilà. Et on a eu la chance de jouer avec Cro-Mags et de les faire jouer à Nantes. Et ça, c'était une grande fierté à l'époque. Alors cette photo, bon bah après To Learn, en fait, c'est à peu près à la même époque que s'est monté Traumatizius, qui était aussi un side project. Ça a commencé quand à la fin de concert de To Learn, quand le chanteur prenait la batterie et moi je prenais le micro et on faisait une reprise de Slamface à l'époque. Et voilà, on s'est dit, ah putain, c'est marrant et tout. On va monter un groupe qui se prendrait pas la tête, où il y aurait pas de, où ce serait vraiment du délire, quoi. Et donc, moi j'étais fan d'un film qui s'appelle Le Toxic Avenger, je le suis toujours d'ailleurs. Et on a monté ce groupe-là, parce que Traumatize, ça correspondait au mode délire qu'on voulait faire, complètement pas destroy, mais ouais, pas politiquement correct. On s'en battait un peu les couilles de tout, hein. Pardon pour l'expression. Et voilà. Donc Traumatize You, ça existait de 99 à 2002. Ensuite, en 2005, on s'est reformé avec on voyait la photo précédemment là, avec d'autres membres. Dont Marthe qui est présente aujourd'hui, dont Job qui aujourd'hui est le batteur de Tagada Jones, un groupe bien connu, même si Traumatize n'a pas grand chose à voir avec ce délire là, mais ça reste voilà, c'est de la musique quoi. Et donc ça, Nantes Pride, c'est le premier disque qu'on a fait avec Traumatize en 2006. Voilà, et à l'époque, c'était, il y avait eu un petit buzz sur Nantes, enfin vraiment vite fait. Hein, on parle de hardcore, donc le petit buzz, c'est ça, quoi. C'est quand tu joues dans un bar et que c'est la folie, même si t'es que 50, quoi. Et cette photo, c'est à l'Under, c'est un très bon souvenir. Moi, j'ai une barbe, je suis tout maigre là. C'était, en plus, ça, c'est, voilà. Je me rappelle que je devais subir une opération très grave une semaine après ce concert. Et qui aurait pu me mettre hors jeu. Et en fait, 3 mois après, c'était reparti, quoi. Bon, c'est encore une photo de Traumatize. Voilà, ça, c'était un concert, je sais pas où. Ah oui, voilà. Avec un futur présidentiable à l'époque. Ça, c'est dans les couloirs du Zénith. En fait, on avait été invité par un groupe de métal, je sais plus comment ça s'appelait. Voilà, à faire un ou deux morceaux avec Traumatize. Et puis en backstage, j'ai un pote qui me dit ouais, Mehdi, il y a Jean-Marc Ayrault dans les couloirs et tout, va prendre une photo. Je dis ah ouais, bon, bah, vas-y quoi. Et puis voilà, Traumaville bandit quoi. Hey, moi j'ai le bras long, attention. Hein. Ok, alors ça fait un peu exposer là notre truc, on l'a pas trop travaillé, hein. Je m'excuse, c'est la première fois déjà que je me prête à cet exercice, donc soyez indulgents, j'espère qu'on s'en sort pas trop mal. Et le truc, ça, ouais, voilà, c'est la release party de notre CD en 2013, c'est le dernier studio qu'on a fait avec Traumatize Youth, voilà.
Au Floride cette fois.
C'était au Floride, anciennement le Saint-Domingue là, du coup. Voilà, ça c'est la nouvelle formation de Traumatize en fait. Voilà, tu as, si tu peux revenir deux secondes, pour l'anecdote en fait, donc moi vous me reconnaissez sans doute, vous avez Romain et Toinou qui jouent dans un groupe de métal qui marche pas mal en ce moment, qui s'appelle Regarde les hommes tombés, et Néric tout à gauche, qui est leur sondier aussi, et qui est un vieux pote de Saint-Nazaire lui, et qui est dans le milieu hardcore métal depuis très longtemps aussi. Enfin, très longtemps. Okay. Ouais.
Alors là, 5 minutes.
5 minutes.
Ce qui est intéressant là, dans cette affiche, justement, là, pour dire une chose, c'est qu'on voit qu'il y a vous, qui Traumatize, qui représente le hardcore, un groupe de metal hardcore, à côté, un groupe de Oi hardcore, et en dessous, donc, un groupe de punk. Enfin, je dis ça, c'était intéressant, parce que moi, le sentiment que j'ai eu à Nantes à une époque, c'est que la scène hardcore, ça a été un peu le parapluie ou comment dire, ça a un peu phagocyté les scènes punk, oi qui pouvaient avoir. Le public se reportait sur la scène hardcore, et en fait c'est un truc où tous ces genres musicaux cohabitaient en fait. C'est ton sentiment aussi?
Ouais, c'est mon sentiment. Après, pour être honnête, je me suis à cette époque. Ça, c'est un flyer très récent. Hein, c'était il y a un an. Donc voilà. Mais en tout cas, dans les années 90, moi, je me préoccupais que très peu des autres scènes, en fait, parce que nous, on était à fond dans notre truc. C'était, on avait plein de potes là-dedans. On passait nos week-ends à ça, voire la semaine si on bossait pas, pour ceux d'entre nous qui ne travaillaient pas. Donc le reste, on s'en foutait un peu. Mais clairement, le hardcore vient du punk. Donc ça, c'est une chose très importante, et c'est d'où ma présence. Voilà, il y a une logique aussi, hein, c'est pas simplement on arrive et puis voilà. Et donc moi, j'ai avant d'écouter du hardcore, j'écoutais du punk, quoi, hein. Très clairement, moi, les premiers trucs que j'écoutais en punk très jeune, hein, c'était, bah, à l'époque, c'était les Beru, hein, aussi en France, Sex Pistols bien sûr. Voilà. Et est-ce que la scène hardcore ait pris le dessus, j'en sais rien du tout. Après tout, enfin, c'est ton avis, c'est ton regard d'extérieur, et voilà. Moi, j'étais acteur, tu peux pas être jugé parti. Bon, voilà. Mais ouais, en tout cas, moi.
Mais disons que pour, enfin, le hardcore, ça a été, pour moi, ça semblait être une grande influence, parce qu'on voit même au niveau des trucs, c'est oi hardcore, c'est metal hardcore. Moi, il m'a semblé, il y a une époque, il y avait une espèce de vague où même les groupes punk, oi, commençaient à vouloir sonner un peu hardcore pour pas avoir l'air d'être à la ramasse derrière, quoi.
Bah, bien sûr, mais en fait, le hardcore en France, parce que c'est pareil, aux États-Unis, c'est les années 80, c'est début des années 80, le hardcore aux États-Unis, mais en France, ça arrivait quand même sur le tard. Il y avait des trucs dans les années 80, ça sonnait quand même plutôt punk, même s'il y a des groupes que j'aime beaucoup comme MST. Mais en fait, les premiers groupes à avoir vraiment fait du New York hardcore, on va dire. C'est des groupes comme, en France, c'est un groupe, par exemple, le premier album de New York Hardcore français, c'est un album de Head Force qui est sorti en 91. Donc en fait, c'est pas un truc, enfin, c'est vieux bien sûr, mais c'est pas les années 80, quoi. Donc si tu veux, c'était nouveau en France, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans, qui avaient peut-être fait le tour aussi du punk, enfin du punk, de la scène punk française, je sais pas. De toute façon, là, il y a deux périodes vraiment distinctes dans le punk français, c'est les années 70, voilà, enfin, de 75-76 jusqu'à 79-80, et puis il y a la deuxième vague qui est plus la vague punk oi, avec tous les groupes, Chaos Productions, etc., enfin, pour citer les trucs les plus connus, bien sûr. Voilà, c'est les deux périodes distinctes du punk. Nous, on arrive super après ça, en fait, tu vois. Par contre, c'est moi le punk, j'en ai beaucoup écouté. Je me rappelle très bien justement à Blue Record d'avoir acheté le premier album de Caméra Silence. À l'époque, c'était 40 ou 50 francs hein, le vinyle. Maintenant, ça se vend 100 euros le machin. Les Comintern Sect, Kidnap aussi, qui est un groupe que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Un peu de la bière.
Bon. Ouais, c'est une reprise de No Pub, ça, d'ailleurs. Et en fait, les trucs plus vieux en punk, moi j'ai découvert ça un peu après parce que c'était déjà très rare dans les de milieu fin des années 80. Je sais pas moi, tout ce qui est à part Metal Urbain qui circulait parce que c'était des plus gros tirages sans doute, mais je sais pas, un 45 tours de Guilty Razors ou de Gasoline, tu pouvais pas choper ça quoi. C'était et même encore maintenant d'ailleurs.
Donc une cover, comme on dit, de Traumatize, toujours de bon goût.
Ouais. Écoute, un peu de violence, tu vois, imagée bien sûr, et puis encore une photo du film Toxic Avenger. C'est un voilà. Alors après Traumatize, on a fait Nantes Résilience. Ça c'était vers 2007. C'est un autre projet que j'ai eu avec un ami de l'époque, Soufiane, et puis Thibaut Fradin, mon vieil acolyte avec qui je fais encore. De la musique aujourd'hui, ça fait 25 ans, plus de 25 ans qu'on fait de la musique ensemble. Thibaut Fradin, qui est un skateur bien connu, nantais, un ancien skateur pro, quoi. Okay. Donc voilà, ça c'est la back cover du premier 45 tours qu'on avait fait, de Nantes Résilience.
Sous ton label, donc, Hardcore Trooper.
Ouais, c'est ça. Très underground, hein, d'ailleurs. voilà.
Alors toi, à la batterie, avec
ouais.
Une tête sympathique.
Ah, celle-là, en mode Stormtrooper, guerrier. ouais, alors ça, c'est Fracture 44, c'est un groupe que j'ai fait après. C'était un groupe de Hoï, en fait, avec lequel on a fait quelques concerts. Avec le chanteur de ce groupe-là, maintenant, je fais un groupe qui s'appelle Machette.
Donc on va, qui est là.
Qui est là, ouais, voilà. Ouais. Et Machette, c'est du hardcore metal. On sort un album là très bientôt et en fait bon, c'est plus du trash que du hardcore aujourd'hui quoi. Ça c'est Machette, ça c'était, tiens reviens sur la photo là, ça c'était pour les 10 ans du magasin de Thibaut Milk, et tu vois derrière t'as une robe de skate, on est toujours resté là-dedans en fait quoi. Ça c'est Machette, c'est une photo très récente, c'est une photo qui c'est la photo qui sera dans l'album Château des Ducs. Ça c'est la pochette de l'album, voilà.
On arrive au terme du temps à partie, donc ouais. Je pense qu'on va passer aux questions dans le public s'il y en a.
Merci.
Merci pour ce témoignage. Alors justement, je voulais te poser une question. Ça sera plus sur périphérique par rapport à cette scène hardcore. Ouais. Comment elle se structure, comment elle communique finalement à d'autres scènes et à travers les fanzines notamment. Sur Rennes, on a Dark Side Report de David Mancilla, puis après Overcome, qui sort début des années 90, qui soutient bien la scène. Ouais. Est-ce que sur Nantes, parce qu'hormis stand-up, qui ouais. est plus sur la côte, qui est vraiment le premier fanzine ouais. hardcore de la région. Est-ce que sur Nantes, vous avez des bultins d'information qui circulent ?
Bien sûr. Moi, je faisais une newsletter, d'ailleurs. On n'en l'a pas évoqué. J'ai fait une newsletter qui a sorti une petite dizaine de numéros. Enfin bref, un truc très anecdotique, mais voilà. À Nantes, en fait, tu avais un fanzine fait par Olivier, le chanteur de Ride for Life, qui s'appelle One Blood, One Crew. Deux numéros sont sortis, c'était vraiment axé New York hardcore, un peu comme le stand-up c'est un peu après, c'est pas vraiment de la côte hein, stand-up, c'est Romu, enfin t'as un des deux gars qui habite sur la côte effectivement, mais Romu il habite dans le coin, genre vers la Beaujoire quoi, voilà, je les connais très bien hein, ces gens-là. Et donc ouais, les fanzines très importants, David Mancilla c'est un ami, ça l'est toujours, aujourd'hui il vit au Mexique, enfin voilà, on est en contact. D'ailleurs on a malheureusement, pour faire une petite parenthèse, Mathieu Brocry qui était un des guitaristes de Stampcore qui est décédé là il y a 2 mois, donc on s'est tous retrouvés autour de ça, enfin c'était un peu particulier, mais c'est pour dire en fait c'est toujours mes amis ces gens-là, on se voit régulièrement, quand je vais à Rennes, voilà, et puis là en fait l'enterrement de Mathieu ça nous a encore ressoudés, donc c'est marrant d'avoir des amitiés comme ça depuis 25 ans dans une scène musicale qui aujourd'hui est vachement individualiste, vachement je pense qu'on compétitive dans le sens tout le monde est là à juger les autres, à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il pense celui-là, qu'est-ce qu'il pense celui-ci. Nous, on s'en bat les couilles, c'est pas ça pour nous le punk hardcore. Le punk hardcore, c'est fais les choses toi-même, bouge-toi le cul et arrête de regarder le voisin et bouge-toi. Ce qui rejoint l'esprit tout à fait des fanzines, voilà, c'est tu fais ça chez toi, le fanzine. Surtout que dans les années 90, il y a pas j'ai eu un ordinateur en 2010. Bon, moi je suis un cas à part, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 90, c'était le bordel pour faire un fanzine. Hein. Tu faisais des photocopies en loose day à ton taf ou je sais pas. Enfin voilà, c'était pas aussi simple que maintenant. Donc c'était vraiment beaucoup d'énergie déployée et une envie profonde de faire les choses. C'est-à-dire les gens qui faisaient des fanzines, c'était vraiment des gens très motivés et impliqués quoi. Et donc ouais, c'était l'époque des fanzines, c'était excellent. Ouais.
Merci. Merci pour vos deux interventions, enfin votre intervention conjointe, ça donne vraiment des bons éclairages. Je voudrais revenir sur quelque chose sur lequel vous n'êtes pas trop revenu, c'est le Hardcore Trooper Records.
Ouais.
Rapidement, est-ce que c'est un boulot à plein temps? Et puis pourquoi tu as monté ça? Et si tu peux revenir brièvement là-dessus, s'il te plaît.
Ouais. Alors Hardcore Trooper Records, c'est mon label. En fait, la première fois que j'ai utilisé ce nom-là, c'était pour organiser un concert. Après, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai sorti un disque, j'ai créé le label, entre guillemets, créé, parce qu'en fait, c'est juste, je l'ai fait moi-même, quoi. Je suis même pas inscrit nulle part, en fait, quoi. Et si tu veux, j'ai fait ça pour faire le 45 tours de mon groupe de l'époque, Slam Face, quoi. On avait enregistré, donc, la démo en 95, en 97, on avait enregistré des morceaux pour faire ce 45 tours. Et qui n'est sorti que en 99 parce qu'on était jeunes, on était galériens. Enfin bon, voilà, y avait plein de gens ont connu ça. Il n'y avait pas papa, maman pour payer derrière. Ils étaient là pour déjà pour nous héberger, nous nourrir, c'était déjà et nous éduquer à peu près correctement, c'était déjà pas si mal. Et Hardcore Trooper Records, ouais, je continue à le faire. Je sors des disques à des tirages à très peu d'exemplaires. Là, le dernier truc que j'ai sorti, c'est un 45 tours de JJ Aline pour ceux qui connaissent. Voilà. Décédé, ouais, un bon gars, je sais pas, c'est surtout un narvalo, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Très peu, 60 exemplaires seulement. Alors voilà, j'ai pas de distribution en fait. Si quelqu'un veut un disque, faut qu'il m'envoie un mail et puis voilà. Après le disque, c'est devenu très compliqué à vendre aujourd'hui. Ouais.
Ouais, salut, merci pour ta présentation, Mehdi.
Je t'en prie, Joël.
C'était juste pour revenir sur cette apparition du label Hardcore qui arrive sur les années, fin des années 90, finalement, mi-90. Je veux juste rappeler que ça s'inscrivait aussi dans un continuum. Finalement, il y avait eu les premiers fanzines punk. T'as évoqué Blue Record, on trouvait les fanzines là-bas.
Exact. Ouais.
86, on fait avec des potes un fanzine qui s'appelle Seine Plongeon.
Ouais.
Des copains qui étaient auparavant dans un fanzine plus punk qui s'appelait Gratte-toi le cul, t'auras des verrues. Okay. Et là, bon, on sortait du côté scato et puis on était plus sur un côté internationaliste d'une certaine manière parce qu'on s'inspirait à fond de la scène américaine, de la scène européenne qui était un peu plus vivace niveau hardcore en France, Italie, ouais. En Allemagne, en Angleterre. Et c'est intéressant qu'il y ait eu cette prise de relais à un moment avec une autre optique qui était peut-être plus une optique de niche. Hein, excuse-moi, mais Swag New York Hardcore, c'était.
On avait 20 ans, on était élitiste, clairement, mais vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai un profond respect pour ce que vous avez fait dans les années 80, mais clairement à l'époque, alors c'est plus début des années 90, c'est fin des années 90, on est déjà sur autre chose, quoi, si tu veux. Enfin, peu importe. Mais si tu veux. Pour l'anecdote, moi j'avais acheté les fanzines Fresher Sport à l'époque. C'est un peu après, hein, je pense. C'est plus vraiment fin 80. Il y avait Big Wooden Sister dedans et tout. Par exemple, moi c'est un groupe que j'avais beaucoup aimé. Ça, je les ai vus en concert à la fête de la musique à Nantes dans une rue quartier Bouffet. Ça m'avait marqué ce groupe-là. La première cassette démo qu'ils ont fait en 88 ou 89 était vraiment excellente, je trouve. Et d'ailleurs, c'était un peu les prémices quand même. Eux sonnaient un peu plus New York entre guillemets. Hein. Attention, ça chantait en français et tout, donc il y avait le côté un peu punk, si on peut dire, mais c'est pas la barrière de la langue, c'est pas très important. Mais clairement, oui, nous, je sais qu'on est on s'inscrit dans une continuité, je l'ai dit, hein, sans aucun problème. Bloody Mosley aussi, je vous ai vu hein, deux trois fois, je crois que je vous ai vu au Corneille ou je sais pas, tu vois, c'est vers la rue Scribe là. Comment dire, merci d'avoir été là avant nous pour ouvrir la voie, quoi. Et puis maintenant, il y a d'autres choses qui se passent. Je sais pas si on sera remercié, c'est pas le but, de toute façon, rien à foutre, quoi, vraiment.
Et non, voilà, ça sera la conclusion. Okay,
Bah, merci à vous, on laisse la place, hein, au suivant.